Chapitre 22. Tandis que la nuit tombait, Nietzsche remontait les larges couloirs de la villa. Derrière les grandes fenêtres, des étoiles brillaient déjà au firmament et elle s'arrêta un moment pour les contempler. Dans les niches murales et les alcôves, des statues de marbre représentaient des habitants d'Île Dakar vaquant à leurs occupations. Une mince jeune femme, une cruche d'eau sur l'épaule, un chasseur aux larges épaules, de lièvres pendus à sa ceinture, un garde vêtu du même uniforme que le haut capitaine Avery. Nietzsche avait même remarqué une vieille femme au dos voûté par une vie de travail qui semblait jeter un regard méprisant sur tous ceux qui passaient devant elle. La magicienne ne s'était jamais vraiment intéressée à l'art. Sauf à Alter Rang, à l'époque où elle faisait passer Richard pour son mari. Maître du burin comme de l'épée, il avait sculpté des œuvres magnifiques, en particulier celle qu'il avait nommée « La vie », une statue si réussie et expressive qu'elle avait déclenché une révolution dans la cité opprimée par l'ordre impérial. Les statues de la villa, en revanche, n'avaient aucune grâce. Moins affreuses que les ignominies commandées à des artistes par frère Naref afin d'illustrer les défauts et les perversions de l'humanité, elles restaient des plus perturbantes. Sans doute songea la magicienne parce qu'il s'agissait en réalité d'habitants pétrifiés en punition de quelques transgressions plus ou moins imaginaires, comme le pauvre berger. Maxime ne se tenait-il pas pour le plus grand sculpteur d'Île Dakar? Au détail près qu'il travaillait la chair et le sang, pas la pierre. Bannon étant absent, sans doute parce qu'il vadrouillait avec ses nouveaux amis, la magicienne dîna en tête-à-tête avec Nathan. Non sans réticence, le vieil homme évoqua ses travaux avec André.
« Je crois qu'il trouvera bientôt une solution à mon problème. Aujourd'hui, nous avons cartographié mon Han et repéré un défaut évident. Pour récupérer mon don, je vais devoir collaborer avec cet homme. »«
C'est pour ça que nous sommes ici, sorcier. »
Même privé de ses pouvoirs, le vieil homme sourit de s'entendre appeler par son titre.
« Mais je ne veux surtout pas m'attarder. » continua la magicienne. « Cette ville me rend mal à l'aise. Malgré la bonne parole du seigneur Hall, je sens qu'Île Dakar continue à pourrir de l'intérieur. »
Sur bien des plans, la ville la faisait penser à Alter Rang. Son gâteau au miel terminé, Nathan se lécha les doigts pour ne rien perdre du délicieux dessert.
« Je signe ta déclaration des deux mains !»
s'exclama-t-il.
« De toute façon... « Je doute qu'Île Dakar puisse être sauvé par une magicienne et un sorcier, même si je recouvre mon don. Bref, nous devrons être partis avant qu'ils réactivent leur fichu linceul. »
Troublé et redoutant de devoir en fin de compte en découdre contre les sorciers d'Île Dakar, Nietzsche retourna dans sa chambre. Là, elle fit le point sur l'état actuel de son don. Après sa formation au sein des Sœurs de la Lumière, où elle avait appris une infinité de choses, passée dans les rangs des sœurs de l'obscurité, les séides du gardien l'avaient familiarisée avec la terrible magie soustractive. En d'autres termes, elle disposait d'un arsenal de sortilèges très largement supérieur à celui de presque tous ses adversaires. Sauf les sorciers d'Île Dakar, justement. Des détenteurs du don capables de pétrifier une armée entière et d'isoler leur cité du temps. Là, même Nietzsche devait s'avouer vaincu. Depuis le changement stellaire, elle n'aurait pas juré que sa magie sophistiquée, d'étoiles de vérification aux formes de sorts les plus diverses, fonctionnait toujours comme jadis. Seule dans sa chambre, elle se campa devant la cuve miroir et sonda longuement son propre regard bleu. Avec ses cheveux blonds soigneusement brossés et tenus par une épingle ornée de pierres précieuses du cru, elle était vraiment très jolie. Des légions d'hommes l'avaient regardée avec concupiscence. Et beaucoup s'étaient servis de son corps. Son seul amour, hélas, ne l'avait jamais trouvé désirable. Richard la respectait et il appréciait son aide. Mieux que ça, il l'admirait d'avoir su revenir sur ses erreurs et il la tenait pour une de ses principales alliées dans sa quête de paix et de liberté universelle. Mais son cœur, il le réservait à Callan. La beauté en amour n'était pas un critère suffisant. De toute façon, aucun jury n'aurait pu décerner à Callan ou à Nietzsche le titre de plus belle que l'autre. Toutes deux étaient superbes, mais la beauté de l'une touchait Richard alors que celle de l'autre le laissait de marbre. Perdu dans ses pensées, Nietzsche plongea les doigts dans l'eau, troublant son reflet,
puis elle s'aspergea le visage. Très tôt dans sa vie, elle avait perdu toute chance d'être dotée d'un cœur plein de chaleur et de compassion. Aujourd'hui, devenue plus forte et enfin loyale à la bonne cause, celle de Richard et de la liberté, elle doutait de trouver un jour l'amour, voire d'en avoir vraiment envie. Cela dit, elle était plus humaine que jamais. Un progrès, non? Après avoir éteint les bougies avec son don, elle s'allongea entre ses draps de soie et s'endormit dans un souffle. Pour la première fois depuis des jours, alors que sa conscience dérivait, elle parvint à établir le contact avec Mara, sa sœur d'élection. Ses yeux devenant ceux de la panthère, elle sentit son corps s'allonger et se réjouit de la puissance de ses muscles tandis qu'elle bondissait parmi les hautes herbes. Dans la plaine, Mara avait trouvé du gibier en abondance. Antilope bien grasse, écureuil, lièvre, l'estomac plein, la panthère restait nerveuse car elle s'inquiétait pour Nietzsche. Des jours durant, elle avait rôdé parmi les soldats pétrifiés. Même avec ses sens amplifiés, elle n'avait senti aucune menace émaner de ces hommes, mais l'objet de son attention, c'était avant tout la ville, pleine de maisons et de gens, une cité où régnait la douleur. Au lieu de filer dans les collines, comme le dictait la prudence, Mara était restée dans la plaine pour ne pas rompre le contact avec Nietzsche. Pas question qu'elle l'abandonne, ni même qu'elle néglige Bannon et Nathan qui s'étaient montrés gentils avec elle. Ces trois humains, elle aurait voulu les protéger, mais elle ne pourrait rien pour eux tant qu'ils seraient en ville. De son côté, en rêve, Nietzsche revivait souvent la captivité de sa sœur féline. Le dressage, le marquage au fer, la troca formée avec deux autres panthères, dans l'arène, ce trio avait fait un massacre. Aujourd'hui, la magicienne pouvait étayer ses souvenirs avec ce qu'elle avait vu de ses yeux. Mal à l'aise à chaque instant de son séjour à Ildakar, elle retrouva un sentiment de liberté dès qu'elle fut liée à la panthère du désert. Pour Mra, la politique et les contingences n'existaient pas, car seule comptait sa nature de prédatrice. Se contentant d'exister, elle courait, chassait, mangeait et dormait. Depuis qu'un sort la liait à Nietzsche, cette existence ne lui convenait plus. La magicienne désormais était une part d'elle-même. Le lien étant de nouveau actif, quelque chose se réveilla dans son esprit. Courant parmi les herbes sèches quasiment de la couleur de sa fourrure, elle savait être invisible, du moins jusqu'à l'instant où elle attaquerait. De nuit, au moment où sa vue était parfaite, elle s'aventura très près de la cité et sentit monter à ses naseaux la puanteur de l'humanité, avec en prime celle de la fosse sceptique où les deux pattes venaient vider leur pot de chambre. Partout, des tas d'ordures témoignaient de la présence des parasites humains. En évitant les grandes portes, fermées pour la nuit, Mara longea le périmètre d'Ildakar. Sautant de rocher en rocher, elle atteignit le point qu'elle visait au pied du mur d'enceinte. Des années plus tôt, un gland était tombé dans une fissure à même la roche. Au fil du temps, un grand chêne avait réussi à pousser puis à survivre dans cet environnement hostile. Sans effort, Mara escalada le tronc et s'installa sur la plus haute branche. De là, elle étudia le mur d'enceinte, plus haut d'une bonne quinzaine de pieds que le chêne. Après avoir évalué la distance, elle bondit sans réfléchir ni hésiter. D'extrême justesse, elle parvint à s'accrocher à un entrelac de lierre, un peu au-dessous du sommet de la muraille. Jouant de ses puissantes griffes, elle grimpa, le ventre plaqué à la pierre, puis parvint à se hisser en haut du mur. Haletante, elle se reposa un moment, la langue tirée, avant de se remettre en marche en rampant. Dès qu'elle aperçut un toit en contrebas, elle sauta, glissa sur les tuiles émaillées et en délogea certaines qui tombèrent dans le vide. Des cris retentirent dans la maison. D'instinct, Mra sauta dans une allée et fila avant qu'un homme et une femme, chacun portant une lanterne, déboulent sous le porche et lancent des imprécations. Sans comprendre les mots, Mra sentit de la peur dans la voix de ces gens. Aucune importance. Elle était à Ildakar, désormais. La ville tant honnie où la douleur rôdait partout. Là où se trouvait sa sœur humaine. N'ayant jamais senti de peur chez sa sœur féline, Nietzsche se tourna et se retourna dans son lit. Oubliant sa nervosité, Mara se mit en chemin, avançant de zone d'ombre en zone d'ombre. Ici, il y avait beaucoup de choses à manger, mais la chasse serait très différente. Dans son sommeil très proche d'une transe, Nietzsche tenta de communiquer avec la panthère du désert.
« Tu dois te cacher. Trouve un endroit sûr avant l'aube.
Ra continua à avancer dans les quartiers de la basse ville, pratiquement déserts au milieu de la nuit. Mais des gardes patrouillaient, certains seuls et d'autres par groupe de trois ou quatre. D'autres gens traînaient encore dehors, des travailleurs nocturnes qui ne quittaient jamais les voies principales et des êtres qui aimaient les ténèbres autant que Ra. Des chasseurs d'humains. La panthère entendit un cri étouffé, puis des échos de combat. Curieuse mais toujours prudente, elle avança jusqu'à une intersection où elle jeta un coup d'œil dans une grande rue. En longue tunique sombre, trois humains attaquaient un garde solitaire. Nietzsche suivait la scène par les yeux de la panthère et via le filtre de son expérience. De son point de vue, les trois canailles attaquaient le garde comme une troca confrontée à une proie énorme. Le garde riposta, mais les prédateurs humains se révélèrent plus forts que lui. Mara capta l'odeur du sang. Dans sa transe, Nietzsche la sentit aussi. Mais ça n'ouvrit l'appétit à aucune des deux. L'attaque n'étant pas passée inaperçue, Mara dut filer pour éviter les hommes qui approchaient. Dans sa tête, elle n'avait plus qu'une idée. Trouver un abri avant le lever du soleil.